Chapitre 14. Le lendemain matin, à 10 heures, Donna, suivie de son père, montait l'escalier de la chère petite maison jaune à volets verts, où il avait connu un bonheur qui ne reviendrait plus. Il s'arrêtait un instant sur le palier, rassemblant son courage. Il entrait dans la jolie cuisine à carrelage rouge, ouvrant puis refermant la porte avec un peu de bruit pour faire venir quelqu'un. Ce fut Madame Jean-Richard qui parut dans la robe de laine grise qu'elle portait pour ses occupations du matin. « Enfin te voilà » exclama-t-elle. « Ah, quel dommage hier soir !» Elle s'interrompit, devint rouge. « Voudriez-vous appeler Monsieur Jean-Richard ?» fit Donna sans remuer. « Il est là, dans la chambre. Entrez » dit-elle, hésitante. « Nous attendrons. » Il restait à côté de son père, droit, immobile, avec un air de s'isoler volontairement de l'entourage. Émer Jean-Richard arriva au bout d'une minute. « Voici mon père, » prononça Donna. « Est-ce que je peux le recevoir dans ma chambre ?»« Mais parfaitement, parfaitement, » fit l'honnête homme mal à l'aise. « Avez-vous déjeuné ? On peut vous faire du café. Je te rejoins dans une minute, Donna, le temps de dire un mot à ma femme. » Dans la chambre, si étroite que Donna dut s'asseoir sur le lit, tandis que les deux hommes occupaient les deux chaises, à droite et à gauche de la table de toilette, un entretien difficultueux s'engagea. Donna était peut-être le moins embarrassé des trois, parce qu'il avait pris nettement son parti. Il ne reniait pas son père, mais il ne l'imposait à personne, et il s'imaginait que cette formule suffirait à tout. « Esther est bien rentrée ? » demanda-t-il. « Très bien, et tu penses si nous sommes heureux de votre succès à vous tous. Le tien a dépassé de beaucoup l'attente de chacun. Je te félicite. Votre fils est un travailleur, Monsieur Brunel. » Émer Jean-Richard, moins exercé que la dame au face-à-main dans l'art de recevoir les détenus libérés, éprouvait une gêne considérable. « Mon fils a de qui tenir, » prononça Jules Brunel. « J'ai toujours été un travailleur. » Mais les choses ont mal tourné. Je lui souhaite plus de chance qu'à moi-même. Deux de tes professeurs étaient à la gare pour vous recevoir, reprit Émer. Tous les parents, cela va sans dire. Votre télégramme nous avait mis en l'air. 7 vainqueurs, Donna maximum. On te cherchait, on a été déçus. C'est bien ce que je lui disais, fit Jules Brunel. Mais que voulez-vous, en se balader par la ville, on a manqué le train. Père et fils qui se retrouvent après 4 ans. Les yeux de Donna cherchèrent ceux de l'horloger, lui parlèrent. « Et c'est ta chambre ?» reprit Jules, regardant autour de lui. « Pas mal, convenable, un peu petit. »« Vous étiez logé plus grandement ?» fit Émer, outré à la fin. Puis il eut honte de lui-même. Mais le mal était fait, irréparable. Donna venait de comprendre que cela même, cette pauvre petite bribe de compromis, de fiction, était impossible. « Alors quoi ? » se demanda-t-il, comme dans ses rêves où l'on trouve un fossé devant ses pieds, de quelque côté qu'on se tourne. Jules Brunel, l'air ronchonneur et pourtant maté d'un mauvais chien lâche qui a vu tournoyer le fouet, se détournait, feignant de regarder par la fenêtre. Émer Jean-Richard reprit avec quelque hâte. « Il y a bien autre chose, Donna. On ne laissera pas moisir ton diplôme. Figure-toi que ce matin, à 8 heures, le président de la commission scolaire venait offrir un remplacement. »« À moi ?» fit Donna la lèvre un peu tremblante. « Pourquoi pas à Campbell ou à l'Étienne ?»« L'Étienne continuera ses études. Campbell aime mieux partir. Il cherche une place de précepteur. »« Oui, je sais. Qu'est-ce que ce remplacement ?» L'instituteur de Pertan a une laryngite. Il faut qu'il se soigne. Ce sera long, mais on lui gardera sa classe. On te l'offre entre-temps. Le pauvre garçon n'a plus de voix. L'école est sans dessus-dessous. Il faudrait commencer tout de suite. Il faudrait commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'on donne de gage ? Fit Jules Brunel rentrant dans la conversation. D'appointement, 100 francs par mois. Matin ! « C'est pas le Pérou, bougonna Jules. J'ai eu gagné dans les 300, moi, quand j'étais monteur de boîte. Enfin, tu peux accepter pour leur rendre service. Vous comprenez que je reprends la direction de mon garçon, » fit-il en se levant, s'étirant. « À son âge, on a encore besoin de conseils. Mais pour l'heure, je me cavale. Je vous laisse causer. Merci pour l'accueil. On est mieux reçu dans l'aristocratie où on était hier. Pas Donna. Il mordait sa moustache, ne sachant jusqu'à quel point il osait sans risque lâcher son humeur rageuse. « Où vas-tu ? » demanda Donna inquiet. « Pas bien loin, jusqu'à la Brigandière probablement. On était copains avec Martin Coquart. Ça convient que je lui fasse visite. Mais tu me verras rappliquer dans 2 ou 3 jours. Je serai là-haut probablement à l'école de Pertan. Ça me va, parce qu'ici, n'est-ce pas ? On me fait sentir. » Sans achever sa phrase, il passa devant Émer Jean-Richard, marmotta un bonjour et s'éclipsa. Donna eut un mouvement brusque pour suivre son père, un peu comme un père s'élance pour suivre son fils qui va commettre un coup de tête. Jean-Richard pensa avec compassion : pauvre Donna, il a charge de famille à présent. Le jeune homme se ravisa, puis il s'approcha de la fenêtre et souleva le rideau. Au bout d'un moment, il s'assit. « Quel droit mon père a-t-il sur moi ? » demanda-t-il d'une voix qu'il s'efforçait d'affermir. « Aucun, mon garçon, pas le moindre. La déchéance paternelle a été prononcée et légalisée il y a 4 ans. Tu ne dépends que de la commune. Enfant de commune et fils de mon père, c'est bien des malheurs à la fois !» s'écria Donna avec une amertume qu'il ne pouvait plus maîtriser. Il croisa ses 2 bras sur la table et y cacha son visage trop bouleversé qu'il ne voulait pas laisser voir. Des sanglots muets secouaient ses épaules, lui déchiraient la poitrine. Un désespoir absolu, en 1 seconde, anéantissait sa dure résistance, tous ses projets, toutes ses résolutions. Il se sentait balayé et roulé vers le vide. Et cette désolation n'était même pas passive, comme elle le devient quand on a assez souffert. Elle était passionnée, révoltée, elle clamait vers Dieu l'injustice de la destinée. Pourtant, Donna se contraignait encore. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire, qui sont des blasphèmes. La vie est arrangée ainsi. On a des devoirs sans qu'on sache pourquoi. Et peu à peu, cette voix intérieure qui l'exhortait se confondait avec la voix sage, un peu troublée, des mères Jean-Richard. « Oui, je comprends. » Oui, c'est un moment difficile. Comme cela, justement le jour de ton grand succès. Moi, j'aurais voulu t'épargner ça. Prends courage, en somme, rien n'est perdu. Tu n'as pas fait de mal. Si tu avais fait du mal, oui, alors tu pourrais te désoler. Tout est là, intact, ton beau travail, ta carrière. Tu réussiras peut-être d'autant mieux que les commencements auront été plus durs. Mon cher enfant, ne te désespère pas ainsi. Donna releva la tête, mais garda son visage enfoui dans ses mains. « Je savais ce qui m'attendait, » fit-il une voix entrecoupée. « Depuis 4 ans, j'essayais de l'oublier, je renfonçais cette crainte au fond de moi, j'espérais, j'attendais quelque chose, une délivrance. Surtout, pendant mon instruction religieuse, j'ai prié. Oh, comme j'ai prié! Il me semblait que Dieu me trouverait un moyen. J'imaginais que, peut-être, mon père changerait. » Je ne peux pas renier mon père. S'il vient me voir, je ne peux pas le chasser. Et alors, ma carrière, le respect des gens, ma dignité? Il est impossible que je passe ma vie à avoir honte de mon père. Je me demande, fit émerger Jean-Richard, jusqu'à quel point va ton devoir? N'exagère pas la solidarité. Non, mais vous voyez ce qui peut survenir à chaque instant comme hier. Je n'aurai plus une minute tranquille. En ce moment, où va-t-il ? Chez Martin Coquart, vider sa rancune. Et ils seront les meilleurs amis du monde dans 15 jours et ils combineront un coup ensemble. Émer Jean-Richard ne put s'empêcher de penser que plus vite le récidiviste ferait ce coup qu'il remettrait à l'ombre pour quelques années, mieux cela vaudrait pour tout le monde. « Écoute, » fit-il, se penchant affectueusement vers Donna et lui caressant les cheveux d'un geste paternel. « Je ne prétends pas que ton fardeau ne soit bien lourd pour ton âge, mais tu trouveras la force de le porter. À ta place, je n'y penserai que lorsque ça devient nécessaire. Tu ne renies pas ton père, mais tu ne vas pas non plus le chercher. Tu t'occupes de ton avenir avant tout. Ça t'est permis, je crois. »« Je voudrais le croire aussi, » murmura Donna. Quelque chose dans cette sagesse lui paraissait court et insuffisant. C'était une sagesse craintive, un peu rampante, et qui cachait sa tête derrière les buissons. La sagesse ailée, celle qui échappe à la main de l'oiseleur, où était-elle? Le mot vraiment libérateur, Émer Jean-Richard ne l'avait pas prononcé. Il avait dit les paroles du bon sens provisoire. Donna pouvait les comprendre, les accepter, et même y trouver sa règle de conduite, comme bien d'autres l'ont fait avant lui. Il se leva. « Vous avez raison, je pense. Merci, dit-il. Puis-je aller dire bonjour à Esther ?»« Oui, elle t'attend avec impatience. »